C'est un non-sens, Sfirat HaOmer. Puisque le Omer, c'est un korban qu'on a fait ce jour-là. Alors on ne peut pas le compter. Il n'y a rien à compter. Et les mots là que les Chachamim ont choisis, Sfirat HaOmer, c'est Sfirat, c'est un décompte. Le décompte de on peut compter, je ne sais pas, les moutons pour s'endormir, on peut compter toutes sortes de choses, mais on ne peut pas compter l'Omer. Qu'est-ce qu'on va compter dans l'Omer? Si on avait voulu faire exactement les choses, on aurait dû dire, la mitzvah c'est de compter les jours passés à partir du jour où on a approché l'Omer. Ces jours-là, on peut les compter à partir. Mais compter l'Omer, ça ne veut rien dire du tout. C'est déjà une question que les Chachamim se sont posés déjà. Il n'y a pas vraiment de super bonne réponse. Il y a néanmoins, c'est une mitzvah de la Torah de compter. Et dans le Midrash, on nous dit, c'est Rabbi Yochanan dit, Le olam al tei mitzvat haomer kala be'enecha. Surtout que cette mitzvah du Omer ne soit pas légère à tes yeux. Ne la prends pas à la légère. Pourquoi? Bon, il n'y a aucune mitzvah de prendre une mitzvah à la légère, mais on pourrait penser, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est pas terrible, quoi. On a apporté un petit peu d'orge, on l'a balancé devant le misbéach. Et c'est tout, quoi. Non, pourquoi est-ce que c'est tellement important? Chez Aliyede mitzvah à Omer, parce que grâce à la mitzvah du Omer, Zacha Avraham l'irash et Eretz Kinaan. Avraham Avinu, grâce à la mitzvah du Omer, Avraham Avinu a eu le mérite d'hériter de la terre de Canaan, de la terre d'Israël. D'où est-ce qu'on sait ça? C'est marqué dans le pasouk, c'est un pasouk qui a été dit à Avraham Avinu, Venatati lecha ulzaracha acharecha, et je donnerai à toi et à tes descendants après toi, almenat, à la condition que Ve'ata et briti tishmor. À condition que toi, mon alliance, tu la gardes. Qu'est-ce que c'est le brit dont on parle ici chez Avraham Avinu? Vous savez bien, le brit, c'est brit mila. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Homer? Mais le Midrash continue et il dit, Ve'eze, qu'est-ce que c'est ce brit? Ze mitzvata Homer. Et ça continue dans le Midrash. C'est Resh Lakish qui dit Le'olam alti mitzvat haomer kala be'enecha. Surtout que la mitzvat haomer ne soit pas légère à tes yeux. She'al yedei mitzvat haomer asa kadosh baruch hu shalom ben ish le'ishto. Et ça continue. Mais il y a encore un autre, c'est avec Gidon, et après, alors le Midrash dit, Vehi, et c'est cette mitzvah du Homer, cette mitzvah du Homer, Vehi chez Amda. Vous connaissez, c'est le Vehi chez Amda de la Haggadah. Et on dit ici aussi, Amar Shmuel bar Nachman, Ish Amda Lahem Bimei Chizkiyahu. C'est cette mitzvah à Omer qui leur a donné le mérite qu'ils ont eu au temple Hizkiyahou, du roi Ézéchias. C'est marqué, Vaya, Kol Mavar Mate Mosda, Asher Yaniach Hashem Alav, Vetupim Uvekinorot, Milchamot Nufa, Nilcham Bam, Riesh Milcha, Milchamet Nufa, Beoto Ador, et Veomer Zumitzvat Aomer. Le balancement de cette histoire. Nishamda Alaem Bimei Cheskel. Incroyable. Toute cette mitzvah à Omer. Bon, on nous dit, c'est formidable, elle était là tout le temps. Dans toutes sortes de circonstances, elle a créé un mérite pour les Bnei Israël. On a gagné la guerre pendant que Hizkiyahou dormait, au temps de Sanhérib. Ce fameux Hizkiyahou qui était presque Mashiach, vous savez. Mais revenons sur Avraham Avinu. Avraham Avinu n'a sûrement pas apporté le korban à Omer. Parce que ça n'avait pas de sens. Il a fait toute la Torah, mais il y avait des choses qui n'avaient pas de sens, il ne pouvait pas le faire. Il n'empêche qu'il y a cette chose qui nous frappe, c'est que ce verset qui parle du Brit Mila. On parle de Brit Mila, on dit le Brit c'est, non pas la Mila, parce que ça on le sait déjà par ailleurs, mais ici ça veut dire, Brit veut dire Omer, la mitzvah du Omer. C'est pas la Sfirata Omer, c'est la mitzvah du Omer. Alors pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser au Omer? Parce que c'est vrai que dans ce que je vous ai lu dans la Torah, quand on compte les jours à partir du Omer, on arrive à un autre korban, les deux pains qu'on apporte à Shavuot, le korban spécifique de Shavuot, qui était un korban qui était du blé et qui était du chametz. C'est le cas de figure où le korban tzibour est un korban qui est chametz. D'habitude, c'est toujours matzah, sauf le korban todah, mais ça c'est spécial. Mais c'est toujours matzah, c'est jamais chametz. On n'amène pas de chametz au Beth Amikdash, sauf les fameux deux pains qu'on amène à Shavuot. Et donc, dans la Torah, c'est pas marqué que au bout du 50e jour, on arrive, on va arriver à Shavuot, mais vous savez bien que c'est pas marqué dans la Torah qu'à Shavuot, c'est à Shavuot qu'on a reçu la Torah. D'accord? La Torah orale va être que quand tu comptes les 50 jours, au bout du 50e jour, tu arrives à Shavuot, Shavuot c'est matin de Torah. Ça veut dire que la période pendant laquelle on compte l'Omer, la période qui va du Korban Pessah jusqu'au Korban de Shavuot, d'accord? Et comme Shavuot est appelé Atzeret, on en a parlé, c'est la clôture de Pessah. Alors comment est-ce qu'on appelle d'ordinaire la période qui va du début de la fête juste après le début de la fête juste avant la fin de la fête? Ça s'appelle Chol HaMoed. D'une certaine manière, cette période c'est un peu comme une espèce de Chol HaMoed étendue, comme la Atzeret est étendue, c'est une espèce de Chol HaMoed de Pessah, en fait. Mais donc, dans la Torah orale, on nous parle du fait qu'on arrive à Matan Torah à partir de là. Dans la Torah, c'est la Torah orale, mais dans la Torah écrite, c'est pas marqué du tout. C'est marqué qu'on va arriver éventuellement à Chag HaBikurim. D'accord, on va amener les Bikurim. C'est ça qu'on amène dans la Torah à Shavuot. Mais quand on fait un compte et que ce compte débouche sur quelque chose, alors, a priori, on a l'impression que c'est pas très lointain de penser que la période du compte est une période préparatoire pour arriver à ce vers quoi on tend, à savoir Shavuot, en l'occurrence. C'est-à-dire, on essaye, non, ne bougez pas, on essaye de se préparer à Shavuot durant cette période. On se prépare. C'est une période de préparation, de construction. On se construit pour arriver à Shavuot. Pour arriver, disons, à Matan Torah. Mais quand on fait un compte, le point de départ est toujours très important. A priori, le point de départ, il doit avoir quelque chose qui permet de voir qu'il est un point de départ à partir duquel on va développer ce qui va nous amener à Matan Torah. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette mitzvah du Homer, elle joue un rôle fondamental quasiment dans toute l'histoire juive. Elle commence avec Abraham Avinu. C'est grâce à la mitzvah du Homer qui chez Abraham Avinu était réduite à la Mila, le Brit, ce mot de Brit, à partir duquel on a dit il s'agit du Brit, de l'Alliance. Mais et Briti Tishmor, Eze, qu'est-ce que c'est le Brit? C'est Mitzvah Taomer. Donc ça veut dire que quelque part, on traite la mitzvah Taomer comme la Mila. Donc, de la même manière que la Mila, c'était la condition sine qua non pour sortir d'Égypte. C'était la condition sine qua non pour qu'Abraham Avinu sorte de son déterminisme astral qui faisait que Abraham Avinu, merci, qu'Abraham Avinu ne pouvait pas avoir de descendants. Pour qu'Abraham devienne, pour celui qui n'était alors que Abraham, qu'il devienne Abraham, qui lui pouvait avoir un descendant, il a eu un descendant. Donc si vous voulez, pour que le clan Israël existe comme tel, il y avait un préalable. C'était la Mila. Et à la sortie d'Égypte, on avait de nouveau le même problème. Il fallait de nouveau faire la Mila, qu'ils avaient arrêté de faire pendant l'exil, pendant l'esclavage égyptien. Il a fallu que Moshe Rabbeinu leur fasse faire de nouveau la Mila. Et quand les Bnei Israël sont entrés dans le désert, ils ne pouvaient pas faire la Mila, pour des raisons techniques. Et quand ils allaient entrer en Eretz Israël, Yoshua a fait faire la Mila à tout le monde. Donc la Mila est toujours la condition sine qua non pour devenir un peuple, finalement, pour exister, pour devenir un peuple. Et là, on nous dit, le Brit dont je te parle ici, quand je te parle de la Mila, en vérité, je te parle d'autre chose, je te parle aussi, en tout cas, de quelque chose qui a l'air beaucoup plus léger que la Mila, mais c'est la mitzvah du Homer. Donc, si la mitzvah du Homer, elle est quelque part la même chose que la Mila, donc la mitzvah du Homer est effectivement quelque chose qui va nous permettre d'être nous-mêmes. Là, en l'occurrence, elle va nous permettre d'arriver à Shavuot. D'accord, en prenant appui, on va compter les jours à partir de cette mitzvah du Homer. Donc on va s'appuyer sur cette mitzvah et avancer jusqu'à ce qu'on soit capable d'arriver à Shavuot et disons dans la version Torah chez Baal Peh, d'arriver à Matan Torah. Donc, c'est un brit qui nous permet d'arriver à Matan Torah. dans ce que Reish Lakish avait dit que il fallait regarder la mitzvah de Homer comme quelque chose qui est non négligeable, c'est parce que grâce à cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu fait le shalom entre Ish et Ishto. Vous savez bien à quoi ça fait allusion. Le korban du Homer, c'était de l'orge. Et dans Chazal, l'orge, c'est une nourriture animale. La nourriture humaine, c'est le blé. La dimension animale, c'est l'orge. La dimension humaine, c'est le blé. Et vous savez aussi, probablement, que s'il y avait un conflit entre un homme et une femme, et qu'un homme soupçonne sa femme, éventuellement, à tort ou à raison d'ailleurs, et qu'il s'embarque dans cette fameuse procédure de la sota, le mari doit apporter un korban pour sa femme, qui est un korban d'orge. Et là-bas, on explique pourquoi est-ce que le korban est tout à coup un korban d'orge. C'est parce que ce dont on parle, à savoir qu'éventuellement la femme était adultère, la Torah veut dire que c'est un comportement animal, c'est pas un comportement humain. Et donc le korban qui correspond à un comportement animal, c'est un korban d'orge et pas de blé. Mais si c'est comme ça, alors on doit dire aussi que le korban du Homer, donc c'est un korban animal. C'est un korban qui est de la nourriture animale. Donc quelque part, ça voudrait dire que les Bnei Israël, quand ils apportent ce korban-là, juste après Pessah, d'une certaine manière, ils sont à un niveau animal et pas encore à un niveau vraiment humain. Leur dimension humaine, pleinement humaine, ils ne l'auront que quand ils apporteront le Shtei Alechem de Shavuot, que lorsqu'ils auront accepté la Torah. Donc, de la même manière que la Mila va permettre à Abraham Avinu de sortir de son déterminisme astral, c'est-à-dire sortir d'une condition qui serait pratiquement animale, au sens, comme un animal complètement déterminé. De la même manière, le Korban à Homer va permettre au Bnei Israël de sortir d'une condition, disons animale, et à terme, d'arriver à une condition pleinement humaine, c'est-à-dire celle de la Torah. Les Bnei Israël, quand ils sortent de Mitzrayim, ils n'ont pas de Torah. Au fur et à mesure que le temps va passer, ils vont passer à un épisode qui s'appelle Mara, l'histoire des eaux amères, etc. Là-bas, ils vont recevoir des mitzvot très importantes. Donc ils commencent à entrer dans une espèce d'humanité, progressivement, mais dont le sommet n'est atteint que quand on sera à Matan Torah, au Sinaï.
Quelle est la signification de l'alliance qu'a fait Abraham, l'alliance entre le morceau qu'on voit dans la...
C'est une alliance qu'il a faite avec Hachem. C'est l'alliance dans laquelle il a choisi l'exil pour ses enfants. Il a choisi que le peuple juif allait être un petit peuple, si vous voulez, mais qui durera longtemps, plutôt que d'être un peuple puissant, mais qui dure peu longtemps, comme Rome, la Grèce, comme tous les royaumes. Il a choisi, il avait le choix, Hachem lui a laissé le choix. Lui, il a choisi l'exil, enfin, même le Gehinnom l'a fait, mais toutes ses souffrances de l'exil, plutôt que de choisir la mort, c'est-à-dire, pas la mort tout de suite, mais le fait d'être comme... Valérie et les autres, ils disent que les civilisations sont mortelles. Plutôt que d'être une civilisation mortelle, il a choisi d'être une civilisation qui passe par l'exil, l'esclavage même. C'est ça qui a été décidé à ce moment-là. C'est ça l'alliance qu'il a faite avec Hachem. Ici, donc on a dit que c'est à cause de cette mitzvah du Homer, à laquelle il faut être très attentif, parce que c'est grâce à cette mitzvah qu'Hachem fait le shalom entre un homme et sa femme, donc c'est le fameux shalom nécessaire quand il y a un problème de sota. Qu'est-ce qu'on entend ici? Qu'est-ce que ça veut dire que grâce à la mitzvah du Homer, Akadosh Baruch Hu fait le shalom? C'est-à-dire que, à la limite, parce qu'il y a la mitzvah du Homer qui se fait avec du seor, avec de l'orge, alors il y a ce fameux korban que le mari apporte dans la paracha de Sota, qui est le commencement de toute cette paracha, qui va amener, c'est pour ça que c'est là, pour toute la procédure, elle est là pour amener le shalom entre l'homme et la femme. Donc, pour qu'il y ait ce shalom, il faut en passer par la procédure. La procédure, elle est ouverte par un korban que le mari apporte pour sa femme, qui est un korban d'orge. Et ce que nous dit le Midrash ici, c'est que cette orge-là, qui sert pour le shalom, d'une certaine manière, il n'existe que parce qu'il y a la mitzvah du Homer. Pourquoi? Parce que cette procédure-là, c'est une procédure de la Torah. Et si on n'a pas le commencement que représente le Homer, ben on n'arrive pas à Matan Torah. Donc cette procédure-là, elle dépend de la Torah. Et d'un autre côté, c'est bien la Torah qui est ce qu'on vise quand on commence le décompte à partir du Homer qu'on aura apporté le lendemain de Pessah, du Korban de Pessah. Et je voudrais aussi m'appuyer un petit peu sur l'histoire de Chizkiyahou. Vous savez, je rappelle juste pour mémoire, il y a 4 rois qui ont dit à Hachem, David a l'air qu'il était capable de faire la guerre, donc il était un excellent stratège, il gagnait la guerre grâce à sa stratégie, etc. Mais quand il avait gagné la guerre, il en attribuait le mérite uniquement à Hachem. Et les rois disent, ces rois qui viennent après lui, les rois de Juda qui viennent après lui, disent à Hachem, nous on n'est pas capable. Nous, si on est partie prenante dans la guerre, on ne sera pas capable de dire que c'est uniquement Hachem qui a gagné la guerre. On dira, nous, Hachem nous a aidés, mais c'est nous qui avons gagné la guerre. Donc ils vont demander successivement à Hachem de gagner des guerres dans lesquelles ils seront de moins en moins partie prenante. Et le summum, c'est Chizkiyahou. Mais alors lui, Chizkiyahou dit à Hachem, écoute-moi, si je suis là, dans la guerre, je m'en attribuerai le mérite. Donc, le seul moyen, c'est que la guerre, c'est la guerre contre Sanhérib qui va exiler le royaume d'Israël. C'est la guerre de Chizkiyahou, c'est un roi du royaume de Juda, de Yehuda. Il faut qu'on gagne la guerre pendant que je dors. Moi, je vais me coucher. Pendant la nuit, tu te débrouilles, tu fais gagner la guerre. À ce moment-là, je ne pourrais pas m'attribuer le mérite d'avoir gagné la guerre. J'étais au fond de mon lit, en train de dormir. Ils ont gagné la guerre. Les troupes de Sanhérib ont été effrayées par du bruit, etc. Ils ont cru qu'il y avait une grande cavalerie, etc. Il n'y avait personne. Ils sont partis et ils ont tout laissé. Donc, non seulement ils ont gagné la guerre, mais en plus ils ont fait un butin pas possible. Alors, bon, vous savez que ça n'a pas marché. Est-ce que malgré tout, Chizkiyahu a trouvé un moyen d'expliquer qu'il y était aussi un peu pour quelque chose? Par conséquent, il n'a pas chanté la louange d'Hachem. Ça n'a pas chanté en lui. Et donc il n'est pas devenu Mashiach. Mais le peuple était à la hauteur d'avoir, c'était le peuple adéquat pour Mashiach, et lui, il était quasiment Mashiach. S'il avait chanté, il était Mashiach. Il n'a pas chanté. Ce n'est pas une question de... Vous ne connaissez pas la partition, hein. C'est que ça ne chantait pas. Mais quand on met en rapport la mitzvah du Homer, et dire que c'est cette mitzvah du Homer qui a permis à Chizkiyahu de gagner la guerre en dormant. Vous savez, gagner la guerre en dormant, c'est pas tout à fait normal. Donc ça veut dire que cette mitzvah du Homer, elle permet de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose qu'on ne peut pas obtenir normalement. Parce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impensable. On ne peut pas penser gagner une guerre si les soldats vont se coucher et dormir. D'une certaine manière non plus. On ne peut pas imaginer que qu'Hachem allait s'investir à tel point, au point de le faire effacer son nom, etc., pour le shalom entre un homme et une femme qui ne s'entendent pas. Ou qui ne s'entendent pas, ou parce que le mari, il s'imagine des choses, et parce que la femme est têtue, etc. A priori, ça ne s'arrange pas avec... Ce n'est pas quelque chose qui va s'arranger comme ça. Donc ce sont toutes des situations dans lesquelles quelque chose se fait qui n'était pas possible. Bon, ça c'est le propre d'un Brit. La Brit Mila d'Avraham Avinu. Elle a permis à Avraham Avinu de faire quelque chose qui humainement n'était pas possible. Ou au Bnei Israël de sortir d'Égypte, ce qui humainement n'était pas possible, n'est pas pensable. Le Brit, c'est quand Hachem accepte de faire une alliance avec les hommes. Une alliance, ça n'a le sens qu'entre partenaires plus ou moins égaux. Mais comment on peut faire une alliance avec Hachem? On n'est pas à la hauteur de faire une alliance avec Hachem. Qui est-ce? On n'est rien du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Hachem va prendre l'homme, ou le clan d'Israël, il va l'élever jusqu'à le mettre en position d'être un partenaire de l'alliance. Donc, c'est ce qui s'est passé. Hachem va élever Avraham, il va lui changer son nom. Avraham, c'est un bonhomme qui va changer complètement, puisqu'il n'aura plus le même nombre de parties de son corps. Bon, puisque la gématria de son nom, désormais, ce sera 248. Et 248, c'est les parties du corps. Et c'est la gamatria d'Abraham avec le Hé. Avant, on n'avait pas, il n'y avait pas le Hé, donc on n'était pas à 248. Donc il était, c'est comme si Abraham n'avait pas tout son corps. Il n'avait pas complètement son corps. Son corps n'est devenu parfait. C'est intéressant, il n'est pas devenu parfait parce qu'on lui a ajouté quelque chose. Il est devenu parfait parce qu'on a enlevé quelque chose. Que la mila, ça consiste à enlever quelque chose et pas à rajouter. Aujourd'hui, quand on pense de faire l'humain augmenter, On veut ajouter les choses. Chez les Bnei Israël, pour atteindre la perfection, il a fallu enlever les choses. Il faut enlever quelque chose. Enlever quelque chose qui nous empêche d'accéder à Hachem, qui nous empêche d'avoir le lien direct avec Hachem. Donc, cette mitzvah du Homer, elle doit, il faut l'entendre. Qu'est-ce qu'on a enlevé dans la mitzvah du Homer pour qu'elle soit comparable à la mitzvah de la Mila, au bride de la Mila, et qu'elle soit capable de nous faire accéder à beaucoup plus que ce à quoi on peut accéder. Le Navi Yirmiya, quand Akadosh Baruch Hu a exilé les Bnei Israël au moment de la destruction du premier Beth Amikdash, il a dit au clan d'Israël, Hachem disait au clan d'Israël, Zahar tilach chesed neuraïf. Je me souviens pour toi du chesed que tu m'as fait dans ta jeunesse. Lechtech acharai bamidbar. Tu m'as suivi, tu as marché derrière moi dans le désert, Be'eretz lo zrua. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est-ce qui marche derrière? C'est le troupeau. Le troupeau, il marche derrière le berger. Donc, ce que les Bnei Israël ont accepté, ils ont accepté de se laisser guider par Hachem. Et Chazal appelle ça les gens qui sont arumim bedat ou masimim atzmam kebehema. C'est des gens qui sont très pointus, qui comprennent très bien les choses, mais ils se positionnent comme s'ils n'étaient que des animaux, comme s'ils ne comprenaient rien du tout. Donc ce qui s'est passé pour les Bnei Israël, c'est qu'ils ont accepté de suivre Hachem, alors que tous les raisonnements disaient que c'est complètement fou. De Eretz Lozroa, Bamidbar. Tu vas me suivre comme un troupeau qui suivrait le berger, et le berger l'amène dans le désert, et le berger l'amène dans un endroit où il n'y a pas à manger puisqu'il n'y a rien qui pousse. C'est-à-dire, c'est suivre Hachem sans savoir du tout où on va. En limite, on ne s'en occupe pas du tout. Or, tout commence pour Avraham Avinu avec Lech Lecha. Suis-moi. Enfin, va dans l'endroit que je t'indiquerai. Il ne sait pas où il va. Et quand il va arriver à un certain endroit, Hachem lui dira, c'est là. Il aura ce problème-là avec l'Akeda, au moment de l'Akeda. Il a ce problème-là aussi, quand Hachem lui dit, quitte ton père, quitte ta mère, ta patrie, etc. Tu abandonnes tout et tu vas là où je te dirai d'aller. C'est-à-dire, tu te laisses complètement guider, tu abandonnes tout, y compris toute ta réflexion. Parce que s'ils avaient réfléchi, ils venaient Israël. Ils auraient certainement dit, on ne va pas sortir d'Égypte, on n'est pas fous. D'accord, c'est insupportable, mais là-bas on est sûr de crever. On va sortir dans le désert, on va crever. Ici, ça sera très difficile, à la limite insupportable, mais un jour ça finira bien. Et on n'est pas sûr de mourir, donc. Donc, si on réfléchit, on n'y va pas. Or, les Bnei Israël n'étaient pas des imbéciles. C'est marqué qu'ils étaient Metsuyanim Sham. Ils étaient distingués en Égypte. Les Égyptiens savaient très bien ce que valaient les Bnei Israël. Quand Paro dit « Mais on est complètement fous d'avoir laissé partir les Bnei Israël », c'est pour ça qu'ils vont les poursuivre jusqu'à la mer. Parce que c'est complètement fou. On a laissé passer partir des gens capables de fournir tout un travail pour nous, toutes sortes de travaux pour nous. Donc si vous voulez, les Bnei Israël, ils font le Korban Pessah. Je vous ai dit, dans le Korban Pessah, vous vous souvenez, on avait dit, c'est le Maharal de Prague, qui se base sur le fait que Hazal dit qu'Abraham Avinu, lui aussi, il a fait le Korban Pessah. Vous vous souvenez? Et Abraham Avinu n'a pas fait le Korban Pessah parce qu'Hachem a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël pour sortir de l'Égypte. Mais on avait expliqué qu'en réalité, le Korban Pessah, il vient proclamer l'unité d'Hachem. L'unité, l'unicité d'Hachem. Que Hachem est Echad. Vous vous souvenez, dans la Halakha, on voit qu'on doit faire devenir Echad, une Chaboura, un groupe de gens qui se mettent ensemble pour manger le Korban Pessah. On a vu que le Korban Pessah, il devait être grillé, un cœur complètement grillé, c'est-à-dire la forme la plus compacte de la viande. La plus un. Ensuite, on n'avait pas le droit de casser les os pour sucer la moelle. On ne pouvait pas faire de un, deux. Tout ça parce que le Korban Pessah proclame l'unité. Et Abraham Avinu, c'est à ce titre-là, pour proclamer l'unité d'Hachem qui faisait le Korban Pessah. Et je répète, et on s'était demandé, mais alors pourquoi nous on fait autre chose? On devrait dire la même chose. D'accord, il a passé par-dessus les maisons. Mais il y a quelque chose de plus important. On va proclamer l'unité, l'unicité d'Hachem. Et on avait expliqué qu'en réalité c'était la même chose. C'est-à-dire que quand on raconte qu'Hachem a passé par-dessus les maisons des Bnei Israël, on a montré que, on a compris que ça voulait dire que Hachem avait montré que le clan Israël était complètement différent. Il était unique. Par rapport, donc, complètement différent des Égyptiens, parmi lesquels, au milieu desquels ils vivaient. Et que proclamer l'unité d'Israël, ou proclamer, quand Hachem, d'une certaine manière, proclame l'unité d'Israël, ou quand Israël proclame l'unité d'Hachem, ou l'unicité d'Hachem, c'est la même chose. Alors, nous, on dit ça parce que c'est plus facile, parce que c'est historiquement, on peut mieux le raconter, c'est moins abstrait. Mais c'est la même idée. Donc, les Bnei Israël qui font le Korban Pessah, c'est des gens qui ont compris, auxquels on enseigne, ce que c'est que Hachem est Echad. Et le lendemain, ils vont apporter un korban qui indique qu'ils sont comme des animaux. Ça veut dire, c'est ça que le pasouk dit, les gens qui sont arumim bedat, ils sont très puissants dans leur dat, dans leur réflexion, etc. Umasimim atzmam ke behema. Mais devant Hachem, ils s'écrasent complètement. Ce qu'a dit Abraham Avinu, anochi afar va'efer. Je suis poussière et cendre. Je suis rien. Et donc, on voit que la Mila, c'était aussi cette reconnaissance de, voilà, je dois faire quelque chose qui, a priori, ne va pas dans le bon sens, quoi. C'est une mutilation. Pourquoi on ferait ça? Hachem l'a demandé. Donc, tu t'écrases. Personne ne dit que la Mila, elle, en tant que telle, elle va apporter monts et merveilles. On le fait parce qu'Hachem a dit de le faire. Le Corban Omer ici, on va le faire parce que c'est tout un travail cette fois-ci, c'est conscient. Il faut faire un travail pour se considérer comme n'étant rien du tout. C'est-à-dire que la condition pour qu'Hachem puisse, pour qu'on puisse arriver à quelque chose d'impensable, à savoir recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est pas pensable. Ce qui nous est arrivé au Sinaï, c'est pas quelque chose, c'est pas un son et lumière ordinaire, etc., avec des petits cadeaux. Bon, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On a dit à ce moment-là des choses qui dans le monde entier résonnent encore aujourd'hui, déformées ou pas, mais enfin qui sont des points fondamentaux. Arriver à cela, c'est pas pensable, mais c'est possible si on s'abandonne à Hachem. S'abandonner à Hachem, je répète toujours, s'abandonner à Hachem, c'est ne s'abandonner à rien d'autre. Parce que quelqu'un qui s'abandonne, qui fiche rien, qui est un mec tout complet, c'est pas du tout s'abandonner à Hachem. S'abandonner à Hachem, c'est uniquement à Hachem. C'est une confiance totale en Hachem. Comme un bébé dans les bras de sa mère. Il s'abandonne complètement. Donc ça, c'était la condition pour que le brit, en quelque sorte, cette mitzvah Taomer, qu'elle puisse être efficace, cette mitzvah Taomer, parce qu'elle va fonctionner et nous permettre de commencer quelque chose. Elle est un commencement, mais ce commencement ne peut être un commencement que si, en quelque sorte, on commence à zéro. Parce que sinon, si tu commences à 2 ou à 3, ben quand tu arrives au bout, tu diras, ben c'est Hachem et moi. Tu feras la même chose que Fiskia. Tu t'attribueras aussi le mérite. Or, il n'y a aucun mérite. C'est Hachem qui nous... Et c'est pour ça qu'on compte les jours qui passent. On ne compte pas les progrès qu'on a faits nous-mêmes. On compte des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est à nous à essayer d'en faire quelque chose. Mais personne ne peut dire, bah, tiens, aujourd'hui j'ai rien fait, donc je compte pas ce jour-là, je compterai demain, je compterai 48 heures pour un jour. Non, c'est pas possible. Tu dois compter les jours. Ah, tu les as peut-être pas bien remplis, c'est ton problème. Mais il s'agit de quelque chose qui va te permettre, par la répétition, par une répétition sur laquelle tu n'es pas maître, mais dans laquelle tu dois essayer de t'inscrire, d'en faire quelque chose, ce qu'on te donne ici. Et donc, mais pour commencer, il faut s'annihiler complètement devant Hachem. Et c'est pour ça que le conte commence, si vous voulez, il commence même. Il commence avec Abraham Avinu. C'est-à-dire, il commence avant que ce soit même possible. Parce que lui aussi, il a fait le Corban Omer. Puis ensuite, on compte. Bon, alors, que ce soit des cycles de 7 fois 7, on a la même chose dans la parcha de cette semaine de Béhar, avec des années pour le Yovel, etc. Bon, ça fait partie des chiffres importants, des cycles importants dans la Torah. Ce cycle de 7 et 7 fois 7. Donc, il y a un travail qui est fait, et on nous dit, dans toute l'histoire, si vous voulez. Tous les exemples qui sont nés, j'en ai donné que quelques-uns. À chaque fois que quelque chose d'important doit se faire, alors on rappelle ce processus qui est en quelque sorte une espèce cette mitzvah, c'est la première mitzvah qu'ont fait les Bnei Israël quand ils sont arrivés en Eretz Israël. J'ai fait des mitzvot, j'ai fait quelques mitzvot, mais elles avaient déjà été ou bien pratiquées avant, etc. Il avait fallu faire un Korban Pessah pour pouvoir faire le Homer, mais elle avait déjà fait le Korban Pessah en Mitzrayim. Donc c'est ce par quoi tout commence. Et c'est présenté comme quelque chose de presque négligeable dans la Torah. Dans la Torah, en fait, ce conte, comme je vous ai dit, il ne débouche pas sur Matan Torah. Dans la Torah, on ne parle pas de Matan Torah à ce moment-là. Il débouche sur Shavuot, sur Hagah Bikurim, c'est-à-dire la fête des moissons, en fait. Alors, c'est intéressant parce que qu'est-ce qu'on nous dit de ce Shavuot ? Dans le passouk, on dit, si vous avez les psoukim devant vous, donc il y a Ouspartem Lachem, et puis ensuite, au passouk 18, Dikraftem al Halechem Shiva. Kvasim, Tmimim, Neshana, etc. Il y aura les deux pains, et on apportera sept cabris, aussi, comme korbanot. Vasitem, d'autres korbanot. Et ukratem be'etzem ayomaze, mikra kodesh. Ce jour-là, ce sera une sainte convocation. Vous ne ferez pas de travaux. Partout. Et puis, ça continue et ça termine. Ou bekutzrechem, et quand vous moissonnerez, l'otchale peatzatra, d'accord, vous ne terminerez pas la moisson jusqu'au coin des champs. Vous allez laisser la glane pour les pauvres. Donc, c'est un moment qui est présenté. C'est quoi la mitzvah? C'est un korban. Et puis, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Du social. D'accord. C'est uniquement du social. Il y a à Pessah, il y a la matzah. À Sukkot, il va y avoir la soukha, le lulav. Mais ici, il n'y a rien. Korban. Bon, mais il ne pouvait pas tout mettre, alors on n'a pas mis le gâteau au fromage dans la Torah, mais bon, c'est un manque, mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout avoir. Mais c'est vrai que c'est frappant que tout ce qu'on nous dit, voilà, on s'est préparé pendant 50 jours, 49 jours, on arrive, il y a un korban, on change de korban, et quoi? Ouais, un jour de fête, on ne travaille pas. C'est tout. Mais il ne se passe rien. Sauf qu'on nous répète à ce moment-là tu dois avoir le... Puisque c'est l'époque des moissons, qu'est-ce que tu dois apprendre dans l'époque des moissons? Tu moissonnes, n'oublie pas l'autre. N'oublie pas le pauvre. On voit très bien que, quand on y regarde d'un peu plus près, il y a toute cette histoire de la glane. Et quand vous... Nous, on entend... Quand on entend la glane à Shavuot, à quoi on pense?
À Ruth.
À Ruth. C'est-à-dire, on pense à l'ancêtre de David Améler. Qui est aussi un processus incompréhensible, ce qui se passe avec Ruth, mais bon. C'est... Donc, on entend que... Ça a l'air, c'est pas négligeable, mais on voit pas le Yom Tov là. Où il est le Yom Tov? On va pas travailler, c'est tout. Mais les gens, à part ce qui se passe au Beth Amigdash, qu'est-ce qui se passe? Il y a rien. On travaille pas, c'est tout. On va chômer. Mais ça débouche sur quoi? Attends, maintenant que tu vas reprendre ton travail, le problème, n'oublie pas l'autre. N'oublie pas le pauvre, l'aveugle, l'orphelin, etc. Parce que les autres mitzvot, on va sonner du shofar, ou bien il y aura Inouï à Kippour, et la tshuva, enfin bon, et Sukkot, etc. Mais Shavuot, dans la Torah, il n'y a rien de marqué. C'est curieux que ce soit la fête du don de la Torah, où on ne fait rien. On ne fait rien, je veux dire, absolument rien de marquant. Parce qu'à la limite, c'est même pas ce jour-là qu'on a décidé de finir la Torah, la Simchat Torah, il n'y a rien de spécial. Et pourtant, c'est un moment absolument extraordinaire, puisque c'est matin de Torah. On reçoit la Torah à ce moment-là. Et donc, toute la préparation, être capable, ça veut dire, en réalité, c'est comme si on n'avait pas voulu faire de l'ombre au fait qu'on va recevoir la Torah. C'est même pas marqué, mais c'est ça qu'on entend. Il n'y a rien, rien d'autre que quoi? Allez, matin de Torah. Et ce qui est très important, c'est qu'on est parti avec rien du tout. On est parti avec un corban, qui était un corban de nourriture animale. C'est-à-dire, ici, c'est un corban de nourriture animale qui est fait par des gens qui pourraient très bien ne pas... Enfin, qui sont tout à fait capables de ne pas être au niveau animal. Mais Massimi Matsmam Kebema, ils se laissent guider par Hachem comme un animal se laisse guider par le berger. Donc il y a cette idée de... On a compris que de cette manière-là, on peut arriver plus haut que ce à quoi on peut arriver par nous-mêmes. Même en étant très grand, etc., mais il vaut mieux se laisser guider par Hachem. Alors maintenant, se laisser guider par Hachem, c'est pas du tout la passivité. Parce que justement, pour Matan Torah, vous vous souvenez bien ce qui s'est passé, c'est qu'Hachem avait dit que Matan Torah aurait lieu le 6 Sivan, et Moshe Rabbeinu, il a ajouté un jour. Et donc, quand Hachem a voulu nous donner la Torah le 6 Sivan, Moshe Rabbeinu a dit non, ça se passera demain. J'ai ajouté un jour. Pourquoi? On avait expliqué longuement, parce que Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël soient partie prenante dans le matin de Torah. Je répète pour que ce soit très complet, que ça s'appelle Matan Torah. Et on dit Isman Matan Torah Teno. Mais c'est pas nous. C'est Hachem qui a donné la Torah. On aurait dû dire Zman Kabbalat Toratenu. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On était Mkabel, on n'était pas du côté du don. C'est Hachem qui a donné. On avait expliqué que. Souvenez, je vous ai expliqué que quand on donne un cadeau, ce même cadeau, suivant à quel moment vous le donnez, il n'a pas la même signification. C'est-à-dire que si vous le donnez, c'est un cadeau d'anniversaire, c'est un cadeau de naissance, c'est un cadeau d'amitié, simplement, c'est un. Toutes sortes de façons de donner cette même chose et lui donner un autre sens. Ça veut dire que celui qui donne, il choisit ce qu'il donne et il choisit le moment de le donner. Alors, Moshe Rabbeinu voulait que ce soit vraiment Matan Toratenu, que d'une certaine manière, nous soyons aussi du côté du don. Alors, on ne peut pas être du côté du don au sens, ce n'est pas nous qui avons donné la Torah. Mais par contre, on peut être du côté du don en étant ceux qui décident du quand c'est donné. Parce que suivant le moment où c'est donné, ça a un autre sens. Donc, mon cher Abbé, il a décidé que c'est nous qui allions décider quand ce serait donné. Hachem voulait donner le 6, et nous on a décidé, enfin, Moshe Rabbeinu l'a décidé, ça serait le 7. Donc, quelque part, en faisant cela, on est à la fois du côté de ceux qui reçoivent la Torah, et aussi du côté de ceux qui donnent la Torah, puisqu'on a fixé le moment dans lequel, auquel la Torah a été donnée. C'est-à-dire, on donne un autre sens au don de la Torah. C'est sûr qu'on l'a donné à un autre sens si on y est, si nous-mêmes, on se donne d'une certaine manière la Torah. Avec Hachem, bien sûr. Mais comme si Hachem était le maître du contenu de la Torah et même du contenant, et nous, on est le maître du temps, au moment du temps où le cadeau est donné, où le matin de Torah est donné. C'est-à-dire, on part. Influencer, on va lui donner un autre sens, un sens où nous sommes partie prenante. Il a changé toute la. C'est pas du tout la même chose. Si on avait été que les récepteurs de la Torah, ou bien si on est à la fois du côté du don, du donneur et à la fois du côté du récepteur. Donc, on a quand même construit notre capacité d'être du côté. Non seulement du récepteur, mais aussi de celui qui donne pendant ces 50 jours, enfin ces 49 jours de construction. Mais tout ça, c'est possible à partir du moment où on s'est effacé complètement. Hizkia ou Amelech, il ne s'est pas effacé. Pourquoi? Parce que finalement, il a dit, ok, c'est un miracle extraordinaire qu'on gagne la guerre pendant que tout le monde dort. C'est vrai, mais il dit, mais c'est pas possible. C'est un mérite extraordinaire que le clan d'Israël a. Il a continué son raisonnement. Il a dit, mais quel peut bien être le mérite du clan d'Israël pour qu'il y arrive une chose pareille? Alors, on le sait, quand on dit que c'était presque la génération du Mashiach, c'est parce que tous les enfants connaissaient la Torah et pratiquaient la Torah. Alors, Hizkiyahou s'est dit, bon, ben, évidemment, c'est parce que tout le monde étudie la Torah. Et il a fait un pas de trop. Parce qu'il s'est demandé, mais comment se fait-il que tout à coup, tout le monde étudie la Torah? Alors, c'est juste, Hazal dit que Hizkiyahou, il a planté une épée sur le parvis du Beth Amikdash. Il a dit, toute personne qui étudierait pas la Torah, ça passait au fil de l'épée. Mais bon, j'y suis pour quelque chose. C'est fini. Terminus, ça ne chante plus. S'il y est aussi pour quelque chose, il ne peut pas chanter la louange d'Hachem complètement. Puisqu'il est aussi l'artisan de ce miracle. Puisque c'est lui, c'est grâce à lui qu'on étudie la Torah. Ici, c'est. Voilà, il était piégé parce que c'est vrai qu'il était en train de dire « Je peux rien faire, il faut que ça tu fasses tout seul. » Mais après coup, quand il a réfléchi, il s'est dit « Moi, j'y suis quand même pour quelque chose. » Et c'était fichu.
Et c'est pas compliqué pour les ministres allemands de pouvoir s'écraser devant un chêne et d'être complètement conduit. Parce que bien qu'ils aient des capacités supérieures, ça consiste en quoi alors
à prendre conscience de la hauteur d'Hachem. La vraie hauteur de l'Hachem, c'est que par rapport à sa hauteur, on n'est absolument rien. Comprendre que c'est pas qu'il est beaucoup plus haut, c'est pas quantitatif, c'est qualitatif la différence de hauteur.
Et le fait que Christian Wallner ait quand même un peu plus de conscience de son implication, c'est ça ne s'est pas traduit comme quantité négligeable par rapport à la toute puissance
d'Hachem. C'est traduit.
Ça ne s'est pas traduit comme quantité négligeable par rapport à la toute puissance d'Hachem.
Oui, quelque part, j'y suis pour quelque chose. On peut se demander qu'est-ce qu'il aurait dû faire. C'est bien vrai que le clan d'Israël étudiait grâce à lui. Mais elle est où la faute? Est-ce que quand ça se produit de cette manière-là, de toute manière, ça ne peut pas marcher? Il faut bien que quelqu'un incite les gens à étudier. Ils vont pas, ça ne va pas tomber du ciel. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait de la violence? Qu'il ne les a pas... Il y a, par exemple, juste pour un peu illustrer la chose, il y a une discussion dans la Gemara pour savoir la Kdush, ce qu'on appelle Kdushat Haaretz, ça veut dire le fait qu'il y a des mitzvot sur la terre d'Israël, qu'il faut prendre Troumot, Masrot, etc., et la Shemitah et tout ça. C'est l'expression de ce qu'on appelle la sainteté de la terre. On n'a pas, il n'y a pas de terre sainte. C'est les hommes qui ont mis de la Kdusha en conquérant cette terre et en établissant qu'on va pouvoir y pratiquer les mitzvot, ça a donné de la Kdusha. Et alors il y a deux shitot. Il y a une shita qui dit que la Kdusha elle a été établie momentanément, tant que les Bnei Israël sont sur cette terre, et d'autres qui disent que non, la Kdusha, elle est éternelle. Elle a été mise une fois pour toutes. Et c'est Rabbi Schubert de Boston qui expliquait que la Kdusha du premier Beth Amikdash, qui était une Kdusha, ça s'appelle le Sha'ata, pour un certain temps, elle était le Sha'ata parce qu'elle a été établie par la violence. C'est à la suite de la guerre qu'on a fait contre les peuples, on a pu conquérir la terre et y pratiquer la Torah. Tandis que la Kdusha, le deuxième Beth Amikdash, elle a été, par le livre, quoi, parce qu'il n'y avait aucun pouvoir, ils n'avaient pas vraiment d'armée, etc. Et donc celle-là, elle restait éternellement. Donc, quand il y a de la violence, c'est limité dans le temps. Le temps qu'on est plus fort. Quand il n'y a pas de violence, alors les choses elles peuvent aller rester définitivement. Bon, ici aussi, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire que si Chizkiyahou a utilisé la violence, la menace, l'épée, quoi, c'est quand même... Alors, quelque part, il s'est attribué le mérite. Sinon, peut-être s'il a été... S'il avait essayé de convaincre, avait des arguments, il aurait pu dire, ben là, c'est la Siyata Lishmaya que ça a marché, j'ai trouvé les bons arguments, mais c'est parce qu'Hachem m'a aidé, quoi, quelque part. Donc, ça aurait sans violence. S'il n'y a pas de violence, ça peut mieux durer, et il ne se serait peut-être pas attribué le mérite. Parce que ce n'est pas lui, c'est la Torah elle-même s'est propagée. Tandis que là, il a obligé les gens, donc... Mais bon... Pas sûr que ce soit uniquement cela. Maintenant, quant à l'idée de compter le Homer, Sefirat HaOmer, je vous ai dit, je ne sais pas vraiment ce qu'on peut en dire, parce que ça fait vraiment pas sens. On compte pas le Homer. En plus, il y a une discussion pour savoir s'il faut dire Al-Sirat, temps étant le jour, 56 jours Bahomer ou 56 jours Lahomer. C'est-à-dire, est-ce que si je dis c'est 56 jours Lahomer, ça veut dire si il y a 56 jours pour arriver, pour retourner au moment du Homer. Lahomer, pour arriver. Si je dis Bahomer, ça veut dire que je prends la période qu'on appelle Homer. Puis je dis, je me suis enfoncé de temps étant de jour dans cette période-là. Mais ça ne change rien, de toute manière. Ça fait quand même que ceux qui lisent Bahomer, ils pensent au Homer comme une période. Et ceux qui lisent Lahomer, ils pensent au Corban Homer. Ils disent, je me réfère au Homer. Oui, non, mais c'est un corban seulement. C'est pas un processus. C'est marqué nulle part que c'est un processus. C'est marqué, ce jour-là, vous allez faire Mimachorat à Shabbat, vous allez faire un corban, point barre.
Et on ne peut pas dire que. Enfin, on ne peut pas dire que c'est comme quelque chose qui s'actualise.
Oui, mais pourquoi tu dirais ça? Tu n'as aucune. Tu pourras dire ça sur tous les corbanotes, alors. Ça c'est parce que justement l'ordre c'est pour montrer justement que il faut commencer tout en bas, il faut commencer à la condition quasiment animale, suivre le rocher, suivre comme les animaux suivent, bien qu'on ne soit pas des animaux, mais comme les animaux suivent le berger, nous aussi on suit le berger sans poser de questions, sans savoir où on va, comme Abraham est parti sans savoir où il allait, et nous non plus on est parti d'Égypte, on ne savait pas où on allait, bon, on savait qu'on allait dans le désert. Parlons-le.
L'action d'éparpiller. C'est-à-dire qu'on...
Non, on balance, je dis.
On balance.
Balance, c'est une balance.
Finalement, quand le décompte du Homer a commencé, on avait déjà la date fixe du 16 ou du 6 Sivan ou
en principe. Ça, c'est pas très clair. A priori, quand il a donné la mitzvah de compter, il a tout de suite dit, vous compterez jusqu'à 50. Bon, le pasouk, vous l'avez. Le pasouk 15, il dit, Usfartem lachem, imachorat ha-shabbat, niyom aviyachem, vous compterez 7 septaines jusque au jour correspondant de la septième année, vous compterez 50 jours, et alors vous apporterez la mincha chadasha, la nouvelle offrande. Nouvelle offrande, c'est les deux pains qu'on va apporter, les deux pains chametz qu'on apporte à Shavuot, avec les kvasim, avec les cabris. On va aussi balancer d'ailleurs. On marque l'éloignement du moment du Corban à Homer, ou bien on dit j'avance dans une période qui s'appelle Homer. Et j'avance, et voilà, peut-être parti, j'ai déjà parcouru tel chemin. Et on ne dit pas je n'ai plus que tant et tant de jours. Dans les deux cas, on est obligé de. On part de. C'est un conte qui commence. Le korban est un début, obligatoirement. On va expliquer pourquoi il est un début. Parce qu'il y a les qualités pour être un début. Voilà, on va s'arrêter là.